Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Ouais, bien sûr.
Moi, je suis David.
Voilà. Moi, je suis Stéphane. On est tous les deux niçois. David, depuis 2006. Moi, je suis revenu à Nice depuis 2000. Donc, voilà, quoi. Et on traîne dans l'alternative depuis 2007-2008.
Voilà, ça fait à peu près 10 ans oui, qu'on traîne alternatif. On a créé Concert Chez Moi, une association qui organise des concerts dans des lieux privés depuis et qui va avoir 10 ans là, le mois prochain.
Ouais. Et puis on est aussi, on s'occupe un petit peu de Télé Chez Moi, qui est une autre association.
Qui existe depuis 2 ans et demi.
Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre?
Plein de trucs.
Ouais, c'est déjà bien.
Oui, c'est déjà bien.
Voilà, ouais, ça nous occupe bien. Et puis sinon, je suis prof de français et David est éducateur spécialisé.
Donc Télé Chez Moi, qu'est-ce que c'est exactement?
Télé Chez Moi, c'est un média participatif, indépendant, niçois. C'est le journalisme tel que moi j'aimerais l'écouter ou j'aimerais le voir. Et puis comme ça n'existe pas vraiment ou je ne l'ai pas vraiment trouvé, c'est pas terrible.
L'idée est partie de Nuit Debout, on était impliqués dans Nuit Debout Nice, notamment les deux premières semaines, et tout de suite on était assez estomaqués par la manière dont les médias parlaient de notre mouvement. Et en l'occurrence ici, Nice Matin, sur Nice, où je me rappelle d'un gros titre, c'était Nuit Debout entre bière blonde et toilettes sèches, ce qui n'était absolument pas représentatif de ce qui se passait sur la place Garibaldi. Et là on s'est dit, il y en a marre maintenant, on va donner notre point de vue, on va faire nos images, on va faire nos interviews. Et ça a commencé comme ça, on a fait nos premiers reportages sur Nuit Debout, donc il y a 3 ans.
Ouais, ce qui nous permet d'arrêter de râler et d'être dans l'action. C'est-à-dire ne plus se plaindre, parce que c'est fatigant de se plaindre, et puis ça rend pessimiste. Moi, ça me rend pessimiste. Donc je préfère essayer de me donner les moyens de créer. Puis quand moi, je n'ai pas les moyens, je m'entoure de gens qui ont d'autres compétences, qui me permettent de faire des trucs qui me plaisent bien, moi. Entre autres de la télé, du journalisme.
Justement, combien est-ce que vous êtes, du coup, à Télé Chez Moi?
Télé Chez Moi, on doit être entre 8 et 10,
oui,
je crois.
Oui, une petite dizaine, ça tourne, on n'est que des bénévoles. Télé Chez Moi, c'est une association à but non lucratif, on ne fait commerce d'absolument rien. Et les bénévoles, oui, on est à peu près une dizaine, mais chacun s'implique différemment, à différents moments, selon le sujet. En fait, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait un sujet en tête, il se dise, tiens, on va faire un reportage là-dessus. Et puis voilà, nous, on est là. Moi, je suis surtout monteur, cadreur. Stéphane, il est là aussi pour faire des interviews, pour donner des conseils, pour gérer le son. Voilà, donc une petite dizaine de bénévoles, mais ça tourne. Il y a des gens qui arrivent, comme la dernière fois. On a fait un reportage avec Philémon de Pilule Rouge, qui a monté le collectif Pilule Rouge et le collectif des Mangoustes des Tropiques aussi, là, dernièrement. C'est lui qui est venu vers nous en disant « j'ai envie de faire un reportage sur la disparition des arts de rue à Nice ». Eh bien c'est parti, on a retrouvé des arts de rue qui avaient effectivement commencé à déserter les rues de Nice pour en faire quelque chose, pour essayer de relater qu'est-ce qui se passe depuis quelques années à Nice pour qu'effectivement on ne voit plus d'artistes de rue.
Ouais, en fait c'est une espèce d'hygiène mentale résistante en fait, en ce qui me concerne. Hein. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui se font à Nice, mais elles sont étouffées par un système qui n'est pas très intéressé en fait par ce qu'on fait. Il n'est même pas en opposition avec ce qu'on fait, il n'est juste pas intéressé. Ça n'entre pas dans sa grille de lecture, ça n'entre pas dans ce qu'ils veulent faire. C'est un système qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, de notre point de vue, est beaucoup plus intéressé par l'événementiel, par des choses qui, nous intéressent moins ponctuellement et qui font, à notre goût, peu de militantisme culturel. Donc nous, on pallie à ça. On essaye.
Et comment le média a évolué depuis ses débuts, du coup?
Au tout début, c'était surtout des captations de concerts. On a fait une centaine, je dirais, à peu près, par le biais de Concerts Chez Moi, la plupart du temps. Ça a évolué, justement, avec Nuit Debout, et puis l'envie de faire plus du journalisme politique. Mmh. Et les quasi tout débuts de vraiment Télé Chez Moi, c'est-à-dire juste après la création de l'association, on a fait une série documentaire qui s'appelle Une ferveur militante, où là, nous avons suivi pendant 5 épisodes des jeunes étudiants de Solidaire étudiants 06. Donc l'envie de montrer ce qu'est la lutte et ce qu'est la résistance ici dans les Alpes-Maritimes.
Et on a vraiment essayé toujours on essaye d'avoir une optique plus de documentariste que de reporter. Donc on essaye de partir sur des sujets avec des problématiques. Ça ne nous intéresse pas de montrer soi-disant des faits objectifs. On est subjectif, on le dit, on annonce la couleur. On est humaniste, plutôt en ce qui me concerne de gauche anarchiste, et on ne le cache pas. Moi, je pense que c'est d'une grande honnêteté de dire aux gens, bon ben voilà, c'est mon prisme, il est ce qu'il est. Je peux avoir tort, mais par contre, j'ai un prisme. Donc après, on y adhère, on n'y adhère pas. Et vraiment, l'idée de la problématique, elle est importante pour moi. Ça veut dire que, par exemple, le jour où, le 23 mars, par exemple, on était sur la place Garibaldi, où il y a eu d'ailleurs l'accident de Geneviève, Geneviève Legay. Et nous, on était partis, en fait, pour interviewer des journalistes. C'est-à-dire qu'on a tendu notre micro et nous, on a voulu savoir comment les journalistes de terrain travaillaient et surtout, qu'est-ce qu'ils répondaient. Alors, puisqu'il y avait toute la France et tous les journalistes, même du monde, en tout cas certains, ben, on est allé interviewer des gens de BFM, de LCI, de Canal. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre et est-ce qu'ils comprenaient pourquoi certains gilets jaunes leur en voulaient. Et ça, ça nous intéressait.
Est-ce que vous pouvez présenter les différentes séries documentaires que vous avez réalisées ?
Comme je le disais, on a commencé par Les Solidaires à 06. On a fait une série documentaire aussi qui s'appelle Une ferveur féministe en 6 épisodes, donc sur les acteurs et actrices féministes, surtout de Nice, avec le Graf, avec Pinard Sélec, etc. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une série documentaire sur les pédagogies alternatives, entièrement tournée dans un collège, avec plusieurs profs qui pratiquent les pédagogies innovantes, avec des classes coopératives, ce genre de choses. Comme série documentaire, il y a aussi, on en a fait une sur la transition écologique, les pistes positives, constructives, les solutions qui existent déjà pour accompagner cette transition qui est inéluctable.
Mais en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est soit des artistes, des créateurs, soit des militants, soit des citoyens qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre à Nice ou dans sa région. Ouais, on fait ça, mais on est très intéressé aussi par tout ce qui est culture au sens large. Donc, de la musique, de l'expression artistique. Là, autour de nous, il y a des photos, c'était issu du set-off. Bon, bah, là, on y était, par exemple. Parce que nous, on pense que c'est vachement intéressant d'avoir une asso qui, depuis 20 ans, se bat pour mettre en valeur la photographie, par exemple.
Au moment où ils perdent leur subvention et ils ne savent pas s'ils vont subsister.
Oui, mais de toute façon, c'est l'associatif en général en France et ici en particulier à Nice. Mais ce n'est pas que à Nice. On a toujours tendance à être délaissé. Hein. On parle de stratégie interstitielle. Mais c'est ça, c'est-à-dire l'alternative, tout ce qui est un petit peu différent du système dominant, n'est pas souvent en dessous des radars de quasiment tout le monde et des médias traditionnels. Donc nous, on est là pour aller voir, pour aller se faire des idées. Et puis, dans les séries documentaires, moi, il y a beaucoup de séries aussi qu'on fait un peu sur un coup de tête parce qu'on a des questions, simplement, qu'on aimerait résoudre. Moi, je pars souvent avec une question. J'ai pas encore trop une idée sur quoi. Je veux me faire une idée.
C'est ce qui s'est passé un peu avec les Gilets jaunes. Dès début novembre, dès mi-novembre, comme tout le monde, on s'est demandé mais qu'est-ce que c'est ce mouvement ? Et on est descendu dans la rue à leur rencontre avec notre caméra pour leur poser des questions. On a fait tout un tas d'interviews ce jour-là. Mais c'est aussi pour nous faire une idée, pour aller vers l'autre, pour provoquer la rencontre et avoir une idée globale de ce qui se trame sous nos yeux plutôt que de rester chez nous et regarder BFM pour nous faire une idée de qui sont ces fachos, des gilets jaunes, homophobes, racistes, etc. On a préféré aller dans la rue, aller les rencontrer.
Ouais, mais moi j'aime bien ça, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué de lutter contre les extrêmes, tout ça, et on peut les traiter de fachos, et même moi il y a des moments où je vais me faire plaisir, mais la vérité pour moi c'est que si je ne tends pas mon micro, si je n'essaie pas de discuter réellement, et ça prend énormément de temps, on ne peut pas y arriver autrement. Et parfois, je suis désespéré parce que je me dis, mais comment on va faire ? Moi, j'essaye de faire mon max, je ne peux pas faire, mais voilà. Mais c'est des séries qui donnent la parole. Avant tout, qui donnent la parole et qui résoutent des questions que j'ai, des questions que je me pose. Tiens, qui sont ces gilets jaunes ? Tiens, comment ça bosse chez les journalistes ? Tiens, comment ça bosse chez un ébéniste ? Tout ça, je n'ai pas les réponses. J'ai des éléments. Mais je vais vérifier par moi-même.
Oui, on ne fait pas que des séries documentaires, on aime bien faire des portraits de citoyens qui s'engagent, qui luttent, ou qui sont artistes, ou qui font preuve d'initiative, qui œuvrent à la vie de la cité, tout simplement.
Ouais. Et puis sinon, on est intéressé, parce qu'avant Télé chez moi, on avait, il y est toujours, un collectif audiovisuel qui s'appelle Bob Pretends to be Blind, Et là, on faisait pas mal de fiction, donc des courts-métrages, des clips.
Par le biais de Télé Chez Moi, encore aujourd'hui, il nous arrive de faire des clips, on en fait à peu près 2 par an, ouais. Pour des groupes qui n'ont pas les moyens de se payer une équipe professionnelle. Donc voilà, on les accompagne, on fait ça bénévolement, comme toujours, et puis on essaye de partir de leur envie et d'arriver à un produit fini, de qualité, voilà. J'espère.
Mais en fait, et puis en plus, comme on est une dizaine, ça veut dire qu'on a tous des sensibilités différentes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup aller dans tout ce qui est culturel, aller discuter avec des artistes. Je suis moins à l'aise sur les sujets politiques. Par exemple, sur les migrants, j'ai un peu travaillé sur certains reportages. Mais on en a d'autres qui sont beaucoup plus spécialisés, qui sont investis dans des associations comme le DAL, par exemple.
Par exemple, avec Loïc, qui est bénévole à Télé Chez Moi, lui il est plus spécialisé justement dans ce qui se passe ici à la frontière autour des migrants. Donc on a fait une série documentaire avec lui qui s'appelle Ces citoyens venus d'ailleurs, où nous sommes allés interviewer des réfugiés à la frontière italienne qui n'arrivaient pas à passer en France, ou qui sont déjà passés en France, qui ont été ramenés, qui réessayent de passer, et qui nous décrivent un peu leur parcours et comment ils en sont arrivés là et l'accueil qu'il leur est fait ici à la frontière.
On n'est pas des bénis oui-oui, mais il y a quand même quelque chose de très feel-good dans notre démarche, parce qu'on a aussi envie de dire, au fond de la boîte de Pandore, il y a l'espoir. Et ça veut dire qu'il faut tenir. Et moi, plus j'avance en âge, plus c'est compliqué de trouver des raisons, mais je pense qu'il faut que je les trouve. Et ça veut dire que ces documentaires, ils traitent de sujets graves parfois, voire très graves, mais néanmoins, on essaye de les présenter d'une manière humaine, d'une manière gentille, d'une manière intelligente, et avec un prisme. Parce que je pense que, là encore, hein, cette idée des médias qui veulent nous présenter des faits, uniquement les faits, et puis les gens vont se faire leur idée, mais encore faut-il avoir une culture derrière, une culture journalistique ou une culture du monde, une culture sur les problèmes. Et ça veut dire lire des choses, ça veut dire discuter, ça veut dire s'ouvrir, et c'est super compliqué. Donc non, moi je préfère arriver en disant, moi je vous présente mon prisme, voilà. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà les codes de mon prisme. Et voilà ce que je vais essayer de vous démontrer. Après, c'est comme une discussion argumentative. Vous pouvez adhérer à mes arguments. Et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter ou on peut contrer de manière argumentative. Ça ne me pose pas de problème. Parce que je peux me tromper aussi.
Oui, les reportages qu'on fait, j'ai envie de dire qu'on essaye de sortir aussi des codes télévisuels. À savoir, déjà, on n'a pas une caméra DV où le premier plan est aussi net que l'arrière-plan. On essaye de faire de belles images. On essaye qu'à chaque reportage, il y a une musique spécifique. Alors, en général, on demande à des copains qui sont passés dans le concert chez moi si on peut leur emprunter une chanson. Donc il y a une chanson ou un morceau de musique spécifique à chaque reportage qui lui donne un peu une couleur particulière. Donc on essaye de faire des reportages qui sont à chaque fois, sans vouloir être présomptueux, mais des œuvres quoi, qui soient singuliers.
Oui, singuliers, ouais.
La musique est très importante à chaque fois.
On est des musiciens, hein, David et moi. David, il fait du piano, du synthé, il fait un peu un gesso comme ça. Moi, je fais un peu de guitare et puis on organise du concert aussi. Donc, on est très impliqué aussi dans l'association Tipentaille qui organise un festival. On ne doit pas dire festival.
On peut dire festival.
Ah, ok, festival. C'est un festival interstitiel, dans les interstices.
Ouais, voilà.
Pourquoi on ne peut pas dire festival ?
Parce que c'est toujours sur le concept de concert chez moi, c'est-à-dire qu'on investit un lieu privé, c'est pas ouvert à tout le monde, il faut s'inscrire, ça fonctionne un peu au chapeau, donc les artistes ne sont pas déclarés, donc c'est pas un vrai festival, ouais, c'est un événement.
C'est un événement, ouais. C'est privé. Un événement sur un terrain privé, c'est un événement associatif, c'est un rassemblement d'associations, et on reste dans les clous de la loi, quoi. Donc on est vraiment des bénévoles... Voilà, on essaye de défrayer au maximum les artistes comme on peut, de bien les accueillir et de réfléchir sur le partage et des structures horizontales. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on travaille comme ça à Concert Chez Moi, à Télé Chez Moi. S'il n'y a pas de, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de, on a tous le même pouvoir, on a tous le même...
La même voix.
Ouais, la même voix, ouais. Et même souvent, on monte des projets avec des minorités, quoi. Il y en a un qui veut faire un truc, même si les autres sont moins intéressés, mais c'est pas grave, on soutient ça, parce que c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Puis accessoirement, on est tous amis aussi. Donc il y a l'amitié aussi qui nous lie beaucoup, 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 vraiment.
Est-ce que pour vous, le journalisme, c'est une forme de militantisme ? Est-ce que c'est une façon de s'engager ?
Pour moi, ça doit l'être, évidemment. Je ne comprends pas, mais profondément, hein, je ne comprends pas les écoles de journalistes et je ne comprends pas ce qu'elles forment. On rentre des gens dans des moules. Tous les reportages, quels qu'ils soient, ont strictement la même gueule. Il n'y a aucune patte de journaliste. Avec les mêmes tons de voix, avec « Aujourd'hui, Nicole rentre chez elle. Pourtant, elle sait qu'elle ne doit pas. » Et alors là, on voit Nicole qui monte les escaliers. Tout est mis en scène. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Je veux dire, pour qui prend-on les gens ? On se croirait dans une télé-novella. Mais faites parler les gens. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas de la télé-réalité. Et ces tons de voix, c'est toujours les mêmes questions qu'on pose, que je trouve très insipides. Après, je veux pas être jugeant. J'ai pas de leçons à donner. Je dis juste, voilà, moi, ça me convient pas. Et je trouve que dans les écoles de journalisme, on ne cultive pas la pluralité. On cultive l'uniformité pour que les gens rentrent dans les cases de TF1, de BFM, qui pour moi sont des aberrations et des verrues du système. Voilà, je l'ai dit, pardon. Mais c'est, bah, voilà.
Il m'arrive d'aller voir un petit peu les reportages vidéo que font les élèves de l'école de journalisme de Nice. Bon, je suis atterré à chaque fois, c'est du sous France 3. Ils essayent de copier du France 3. Alors, les gars et les filles sont en formation. Et déjà, ils sont formatés dans ce truc. On va essayer de faire les mêmes images, la même manière de raconter quelque chose. Bon, on va aller interviewer la petite bonne femme dans le Vieux-Nice qui fait des savons. Bon, c'est très respectable de faire des savons. Mais enfin, au niveau de l'intérêt général, au niveau de la vision journalistique, bon, on peut peut-être trouver mieux.
Moi, je ne filme et je ne pars dans un reportage que si j'aime le reportage. Enfin, je veux dire, c'est une base pour moi. On ne peut pas transmettre quelque chose si déjà, à la base, on ne l'aime pas. Moi, je sais pas, par exemple, la pêche au mérou est certainement un sujet qui est passionnant, mais il n'est pas pour moi, parce que je ne suis pas intéressé par la pêche. Le chasseur du machin, je veux bien reconnaître qu'il ait une utilité éventuellement, mais ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le mettre en valeur. David, si le sujet il ne l'aime pas, il ne va pas bien le filmer. Je dis, c'est une réalité pour nous. Donc, je ne suis pas bon pour faire certaines choses. Et donc, si on m'envoie un jour aller faire, je ne sais pas moi, une course de piscine, et puis le lendemain, on va me faire les gilets jaunes, et puis le surlendemain, on va me faire la météo, où je vais dire aux gens sous la neige, oh, il neige. Non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, profondément, je ne trouve pas ça intéressant. Qu'il y ait des gens qui veulent le faire, tant mieux, c'est très bien. Mais ouais, il y a une mission.
Ça part toujours d'une curiosité intellectuelle. Ouais. Chaque fois qu'on s'engage dans un reportage, c'est parce qu'on veut, nous, découvrir quelque chose. On a envie de faire des rencontres et on a envie de rendre compte. Il me semble que c'est un peu ça, le travail de journalisme. Nous, quand on a interviewé les journalistes dans ce documentaire « Jour de nasse pour journalistes », le jour où on était sur la place Garibaldi et qu'on s'est fait nasser toute la journée, les journalistes nous répondaient qu'ils se voulaient tous objectifs, neutres. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Ouais, non, comment c'est possible d'avoir une parfaite neutralité alors qu'on a tous des cultures différentes, on a tous des lectures différentes, et puis on arrive sur les lieux, on en pense quelque chose. On voit les gilets jaunes, on voit les forces de l'ordre en face, on est obligé d'en passer quelque chose. On ne peut pas sortir quelque chose de neutre et d'objectif. Pour moi, ça n'existe pas.
Et puis ce manque de culture, c'est important, la culture, pour s'ouvrir aux autres. C'est super important d'avoir des jolies choses, de faire naître de la création. C'est pour moi la base. Comment on veut créer des sociétés déjà quand autour de nous c'est moche? Enfin, je dis, c'est logique, quoi. Je veux dire, mettez des arbres fruitiers dans des villes, mettez des jardins, c'est quand même plus sympa que des panneaux publicitaires. Je dis, c'est aussi simple que ça. Et j'ai l'impression que les gens regardent, genre, ah, mais non, ah ouais. Donc c'est créer de la beauté, créer de l'intelligence, et puis bah non, parachuter un journaliste pour venir couvrir un vague événement à Nice, la personne elle n'est jamais venue à Nice, elle ne sait pas comment ça marche, elle ne connaît rien, elle va repartir avec des images qu'elle ne monte souvent même pas elle-même. Enfin, c'est quoi le délire, quoi, Donc non, je ne peux pas adhérer à ce journalisme-là, et je trouve ça triste qu'on fasse croire aux gens que le journalisme, on peut le faire comme vendre des patates. Et encore, même vendre des patates, il faut le faire avec amour, sinon on vend de la merde, quoi.
C'est sûr qu'on n'a pas un chef rédac qui nous dit « David et Stéphane, allez à tel endroit, vous nous ramenez telles images, et puis nous on les monte, et puis ça rentre un peu dans notre manière de penser, ce qu'on avait commandé en amont de l'événement. » Nous, on a la démarche parfaitement inverse.
Après, pour leur défense, ils ont une logique économique qui n'est pas la vôtre.
Après, je suis très idéaliste, hein, mais je pense que l'argent détruit les choses. Je veux dire, je crois profondément que l'argent détruit les choses. C'est-à-dire, jusqu'à une certaine somme, les individus restent raisonnables. Et au-delà d'une certaine somme, on sombre dans une pathologie extrême, c'est-à-dire l'avidité. Et l'avidité, c'est très proche du pouvoir, et à partir de là, ça devient n'importe quoi. quand l'information est un marché, ça veut dire qu'on va aller filmer des choses qui marchent, qui vont être vendables. C'est aussi clair que ça. Ça veut dire que la petite mémé qui vit avec 200 euros de retraite dans un coin d'un cagibi, ça n'intéresse personne. Sauf s'il faut faire pleurer dans les chaumières et la montrer, et on la montrera deux minutes et on s'en foutra après. Je veux dire, par contre, voilà, l'accident d'avion, alors là, voilà, c'est super et tout, mais quel monde on veut pour demain? Et pour moi, c'est ça la mission d'un journaliste, c'est pas d'apporter des réponses, mais d'apporter ses réponses. En disant, ce sont mes réponses.
Quel impact est-ce que vous pensez avoir sur votre public? Est-ce que vous avez eu des retours?
Ouais, plein. On rencontre souvent des gens qui nous connaissent et puis qui sont contents. Je crois que tous les gens sont contents. Ça, c'est ma fierté à moi. Je crois qu'on est, on a un taux de fiabilité qui est fort. Je crois qu'il y a deux reportages, bon, pour des raisons un peu urgentes, qu'on n'a pas pu assurer finalement. Mais on a toujours assuré tout ce qu'on a dit, qu'on faisait. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, parce que les mots ont un poids, et que ben, soit je ne m'engage pas, soit on ne peut pas faire la chose, parce que voilà. Mais ça, je crois que ça impressionne, en fait. Ça me paraît con, hein, moi, parce que c'est comme ça que je suis. Mais je pense qu'il y a énormément de gens, à chaque fois, ce qu'on nous renvoie, c'est qu'ils sont très heureux de ce qu'on a fait de leur image, ils se sentent respectés, ils ne se sentent pas trahis au niveau de leur parole. Je crois que c'est arrivé... une fois, je crois que quelqu'un était, ouais, j'en ai discuté sur une manif, un type qui n'avait pas été trop content de la manière dont on allait le présenter. Bon, bah, je lui ai dit, bah, écoute, t'écris un courrier à télé chez moi, et puis on publie sur notre site, voilà, en droit de réponse. Bon, finalement, on n'a pas eu de suite. Mais voilà, je crois que c'est la seule chose, donc notre public est content. Après, je ne connais pas bien notre public, j'imagine. Comment on qualifie notre public ?
Justement, du coup, comment vous qualifieriez votre public? Comment vous les voyez?
Je pense qu'on a un public qui est principalement dans l'alternatif, ça c'est très clair. Je crois qu'on a un public qui est sensible à la culture, qui est sensible à l'art en général, qui est un public qui est quand même un public militant ou qui fréquente des militants. Donc voilà, mais c'est un petit public qui nous remercie. Et puis, par exemple, dans notre public, ça je le sais, on a les parents de David, ouais, qui sont très très fans. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir ses parents. Ouais.
Non, mais on a été relayé par Fakir, par exemple aussi. Ça, c'est, ouais, c'est on vrai. On était plutôt content. Par rapport au public, moi je dirais que c'est de plus en plus facile de faire des interviews parce que justement on nous reconnaît, on reconnaît notre petite carte, on nous fait confiance. Là, à chaque fois qu'on se retrouve en manif, on rencontre des gilets jaunes qui nous disent que on a plutôt la cote chez eux, les gilets jaunes de Nice. Bon, je sais bien que parmi tous ceux qui luttent, qu'on rencontre dans la rue, dans les manifs, bon, ils nous font confiance aussi. Donc voilà, c'est plutôt un public averti.
Bienveillant, ouais. Bienveillant, averti.
Sur le plan personnel, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté?
D'arrêter de gueuler.
Oui, mais c'est surtout ça. Ouais, arrêter de râler dans notre coin, se retrousser les manches et faire quelque chose, aller rencontrer des gens qui se bougent, qui ont des initiatives, ouais, les mettre en valeur. Donc oui, effectivement, arrêter de râler sur l'absence de visibilité pour ces gens-là, pour ces initiatives, pour ces associations, pour toute cette culture. Moi j'ai l'impression qu'à Nice, notamment au niveau de la municipalité, on confond souvent événementiel et culturel. Nous on est plus du côté de la culture que de l'événementiel. Et au niveau du culturel, je m'aperçois que le tissu associatif il est quand même très riche à Nice, qu'il y a beaucoup de gens motivés, beaucoup d'innovations aussi. Ça m'a permis d'élargir un peu mon spectre et de constater que la résistance, elle est quand même bien ancrée, elle est bien existante.
Ouais, ça m'a permis de me sentir moins seul au niveau personnel. Je crois que c'est important de se fédérer pour ne pas sombrer dans la désespérance. Je crois que pour moi, c'est la clé et ça marche assez bien avec moi. C'est à partir du moment où je suis entouré de gens qui ont quand même des idées constructives et créatives, bah ça me permet de pas être désespéré. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. C'est très égoïste, en fait. Hein. Il y a une dimension très égoïste dans ce que je fais. C'est-à-dire que c'est une catharsis, c'est un moyen de pas craquer, c'est un antidépresseur. Ça me permet de pas trop me droguer, ça me permet, mais sérieusement, je dis, ça me permet de pas être triste.
C'est pas une réaction égoïste, hein, de prendre soin de soi, c'est pas une réaction égoïste, justement, si en plus tu fais grandir ou tu avances sur ce sujet-là, je trouve ça super bien.
Mais après, je suis très sain là-dessus, hein. Moi, j'ai ma part d'égoïsme. Enfin, je veux dire, je suis pas un martyr. Je vais pas me battre pour des causes juste pour le plaisir d'être un martyr. C'est, il y a une dimension personnelle où ouais, je me fais plaisir aussi, et je suis content que de me faire plaisir, ça passe aussi par la joie des autres, quoi. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir.
Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre média ?
Moi, je me mets en année sabbatique là, à partir de juillet. J'ai demandé une année de disponibilité. Donc en réalité, je vais arrêter de bosser pendant 14 mois et je vais vivre de mes propres deniers, ce qui a l'avantage de me permettre de réfléchir justement vers quoi on veut aller. Voilà.
Oui, moi je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté la famille de Télé chez moi qui s'agrandit avec de nouvelles personnes qui participent au projet. Et d'un autre côté, on aimerait aller aussi vers des documentaires un peu plus professionnels. Nous, on aime bien le genre du documenteur, par exemple. On en a fait un il y a 3 ans au Japon, qui s'appelle Kitsune no Uta.
Il est très bien.
Ouais, où on a 2 journalistes de télé chez moi qui sont, malgré eux, embarqués sur une enquête à la recherche de l'explication d'une fable japonaise, d'une légende japonaise, la légende du renard. Allez sur notre site, vous le verrez, ça dure 40 minutes, je crois.
Non, on a une version courte, on a une version courte qui fait 30 minutes.
Bon voilà, on aimerait développer ce genre de projet. On en a un d'ailleurs qui est quasiment écrit et qui se passerait en Islande. Alors là, ce ne serait pas sur une légende comme cette légende japonaise, mais ce serait plus autour des elfes
et
ce petit peuple. Donc quelque chose toujours d'assez fantastique et sur le registre du documentaire.
Mais je crois que l'avenir aussi, moi je l'envisage en disant, voilà, si vraiment on se fédère, ça veut dire qu'on peut créer un média qui est réellement horizontal et participatif. Et ce qu'on aime bien faire à Télé chez moi, c'est que les gens qu'on va interviewer, souvent ça devient eux-mêmes des intervieweurs. Et on fait bien passer la main et ça nous amuse beaucoup. Du coup, cette famille, elle grandit et on se retrouve toujours avec des anciens interviewés qui nous disent, ouais, mais je ne vais pas savoir le faire. Puis finalement, ils le font très bien. Et se fédérer, ça veut dire que on se met au service aussi de l'alternative niçoise. C'est parce que c'est cool de se dire on est une ville qui est difficile, mais on a un média dans l'alternative, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes de France. Hein. Et je pense que plus on multipliera les médias, que ce soit Ligne 16, que ce soit nous ou d'autres, on peut vraiment aussi changer la donne. Parce que les choses, elles ne sont pas immuables. C'est le principe même de la vie, c'est que rien n'est immuable. On nous fait croire que tout va rester comme ça, que tout est normal, que tout va bien. Mais non, la vie, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant et d'extrêmement improbable. Donc, il peut se passer des choses. Et des choses peuvent se renverser. Les choses ne sont jamais là, ad vitam aeternam. Jamais.
Vous êtes en contact avec d'autres télés participatives comme ça, sur d'autres régions, sur d'autres villes ?
Pas encore. Moi, j'essaye de voir un peu. Il y a un festival du côté d'Avignon qui s'appelle Fram. Je ne sais pas si tu prononces Fram, Frame, qui est organisé par le Fossoyeur. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes créneaux que nous, mais ouais, j'aimerais bien un jour me rapprocher un peu d'eux. Ouais, ça c'est parce que c'est ouais. C'est voilà, ça c'est des choses que j'aimerais bien faire, mais là pour l'instant non. À part Ligne 16, non. On est proche de personne.
Justement, qu'est-ce que vous pensez des émissions de Ligne 16 que vous couvrez et de notre travail en général ?
On peut dire que du bien, là.
Moi, quand Tania nous a proposé de participer à cette série d'émissions 6 fois, donc on fait 6 fois 20 minutes, on fait des résumés pour Télé chez moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est une idée qu'on avait eue, je sais bien que c'est pas une idée très novatrice, mais on voulait faire ça il y a 2-3 ans, justement après Nuit Debout, faire justement des émissions publiques comme ça. Donc quand Tania nous a présenté le projet en nous disant, voilà, on fait des émissions publiques, venez filmer, parfait que d'autres s'en occupent, qu'on est juste venir avec notre caméra et faire du montage derrière. Donc Ligne 16, ben, vous faites un travail super. Ça, c'est... Vous faites un travail aussi qui est impliqué sur un territoire, donc c'est très différent de Télé Chez Moi.
Moi, vous m'avez appris des trucs. Hein. Moi, le reportage sur les GAFA, je l'ai encore en tête. Hein. Mais je ne connaissais pas. C'est ça le pire. C'est ça qui m'intéresse, c'est que des gens me bousculent dans mes convictions et dans mon confort. Voilà. Je veux être bousculé dans mon confort. Et non, je ne sais pas tout sur tout. Il y a des tas de trucs, je suis hyper ignorant. Et je trouve que c'est un petit bouillon de culture qui a un certain bordel qui, moi, est plein de charme. Parce qu'il y a ce bordel de l'horizontalité qui, là encore, me plaît. Et je pense que quand des individus comprennent qu'ils peuvent aller chercher l'information par eux-mêmes, qu'on n'a pas besoin de déléguer des BFM, des machins, des trucs, qu'on est assez grand pour le faire, quoi. Ça, je trouve ça intéressant. Et donc, tout laboratoire d'idées, moi, je le surencourage. Donc, moi, je suis très, très content. Ligne 16, je vous avais repéré il y a 2-3 ans. Je ne sais plus qui nous en avait parlé. J'étais allé voir, puis bon, voilà. Mais on se lançait à peine. On essayait de trouver notre forme. On avait essayé de commencer en faisant des chroniques, un peu comme tous les youtubeurs. Puis ça nous a gonflé, en fait, parce que... En tout cas, moi, j'ai arrêté de faire de la chronique parce que ça ne m'intéresse pas tellement, en fait. Ça ne m'éclate pas. J'aime pas être enfermé dans un truc. Et là, justement, tout ce travail avec Ligne 16, c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est un travail très ouvert, et puis c'est un travail de radio. Et moi, j'ai toujours ce vieux fantasme d'animer une émission de radio. C'est un de mes vieux rêves que je caresse. Je ne l'ai pas encore fait, ça viendra, comme ça viendra, avec des gens qui voudront bien de moi, ou je sais pas quoi. Mais donc j'adore ce travail, évidemment, Ligne 16, évidemment.
Moi, je veux juste dire que je trouve enthousiasmant ce qui se passe sur Nice depuis un an, deux ans, où j'ai l'impression que beaucoup d'associations sortent de leurs ornières, voilà, de ces fonctionnements, petit chef, ma petite chapelle, etc., pour se fédérer. Nous, c'est ce qu'on constate. Beaucoup d'associations commencent à se fédérer parce que les temps sont durs déjà, parce qu'il faut bien partager les énergies, essayer de rameuter du monde aussi, sortir de nos réseaux respectifs. Et ça, je le constate un peu tous les jours depuis à peu près deux ans avec des collectifs, des associations qui se montent, mais qui se montent dans le but de se connecter aux autres associations qui existent déjà pour grossir les troupes, voilà, pour se fédérer, pour mieux porter en fin de compte.
Ne rien lâcher, ouais. Moi, c'est vraiment c'est essentiel. La télévision, le journalisme en général est désespérant. Désespérant parce qu'il, pour moi, il nous donne un aveu d'impuissance. On ne peut rien faire, on assiste à la marche du monde, mais on fait partie de ce monde-là. Et on peut le faire bouger, même si après, ouais, bien sûr, je suis une toute petite chose qui va faire des petites ondulations sur l'eau. Mais mes petites ondulations, elles vont peut-être toucher des gens qui eux-mêmes vont, etc., etc. Et je crois que c'est ça. Oui, tout est fait pour me désespérer. J'ai mille raisons d'abandonner chaque jour. Mais c'est, je cherche la raison qui va me faire continuer. Parce que malgré tout, les Pink Floyd ont fait Wish You Were Here, quoi, et que c'est magnifique, et que c'est moi la musique qui m'impressionne, et que si des humains sont capables de faire ça, on peut s'en sortir. Ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être bordélique, on n'est pas sûr de gagner, il y a mille scénarios super inquiétants qui arrivent, mais tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça que ça a toujours été, quoi. Donc voilà, moi j'ai envie de dire ça.
Oui, mais après on n'invente rien, on prend le train en marche. Aujourd'hui, chacun peut être son propre média, tout le monde peut filmer. Maintenant, si demain matin Bolloré il vient m'apporter un chèque, je renie tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant.